j'adore apprendre avec Radio Okapi.
Oui, les enfants, bienvenue dans votre émission Bana Okapi Éducation.
Très heureux de vous savoir nombreux à suivre Bana Éducation, votre magazine consacré à l'enseignement à distance par la radio. C'est un programme conçu pour tous les élèves de la République démocratique du Congo, spécialement pour les apprenants des rattrapages scolaires qui se situent dans les régions affectées par les conflits. Ce programme vous est proposé du lundi au vendredi entre 16h et 17h heure de Kinshasa, samedi de 9h à 11h et dimanche de 10h à 12h. Je suis Grace Mvozolo à la présentation de ces numéros, Alain Ngoï est à la technique. Sarah Soumbela réalise ces programmes coordonnés par Christian Mapendano sous la supervision de Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Bonjour, chers apprenants.
Bonjour, messieurs l'enseignant.
Bien, aujourd'hui, nous parlons de l'eau et de la rivière en sciences physiques. Chers élèves, soyez très attentifs pour suivre cette leçon très importante sur l'eau et la rivière. L'eau est une substance essentielle à la vie. Sans elle, ni les humains, ni les animaux, ni les plantes ne pourraient vivre. Elle est présente partout dans les rivières, les lacs, les océans, dans l'air que nous respirons et même dans notre corps. Dans cette leçon, chers apprenants, nous allons apprendre la définition de l'eau, ses propriétés, les états de l'eau, les changements d'état, les cycles d'eau, les sources d'eau, l'usage de l'eau, la pollution de l'eau et comment préserver cette ressource précieuse. Bien, commençons par la définition de l'eau. Chers élèves, retenez ce qui suit. L'eau est un corps liquide, incolore, inodore, transparent et insipide ou sans saveur. Incolore signifie sans couleur, inodore veut dire sans odeur et insipide signifie sans goût. Elle est composée des deux éléments qui sont l'hydrogène et l'oxygène. Parlons à présent des états physiques de l'eau. L'eau peut exister sous trois états physiques. Il s'agit de 1. L'état liquide. C'est l'état le plus courant de l'eau. Elle coule et prend la forme du récipient qui la contient. Exemple, l'eau du robinet, l'eau des pluies, l'eau dans une rivière. 2. L'état solide. L'eau devient solide lorsqu'elle est refroidie à une température inférieure ou égal à 0 degré Celsius. Exemple, la glace, les glaçons, la neige. Et 3, l'état gazeux. L'eau devient vapeur lorsqu'elle est chauffée à 100 degrés Celsius. Exemple, la vapeur d'eau qui sort d'une marmite en ébullition.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Chers apprenants, parlons à présent
des changements d'état de l'eau. L'eau change d'état sous l'action de la chaleur ou du froid. Ces changements sont 1. La solidification. La solidification est le passage d'un corps liquide à l'état solide. Exemple, l'eau mise dans un congélateur devient de la glace. Deuxième changement d'état s'appelle la fusion. La fusion est la transformation d'un corps solide à l'état liquide. Donc, c'est l'inverse de la solidification. Par exemple, un glaçon qui fond devient de l'eau. Le troisième changement, chers apprenants, d'état s'appelle la vaporisation ou l'évaporation. L'évaporation ou la vaporisation est le passage d'un corps de l'état liquide à l'état gazeux. Exemple, l'eau qui bout dans une casserole produit de la vapeur. Le quatrième changement d'état de la matière s'appelle la condensation. Chers apprenants, retenez que la condensation est le changement d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide. C'est l'inverse de la vaporisation ou de l'évaporation. Exemple, la vapeur d'eau qui touche une surface froide forme des petites gouttes d'eau. Chers élèves, écoutez l'explication la plus facile d'un exemple de la condensation. Quand on fait chauffer de l'eau dans une marmite, de la vapeur d'eau monte. Si on met un couvercle bien froid sur la marmite, on verra des petites gouttes d'eau se former sous les couvercles. C'est la condensation. Donc, c'est lorsque la vapeur d'eau chaude touche une surface froide et redevient liquide. Chers amis, suivez un autre exemple de la condensation. Si on remplit un gobelet en plastique avec de l'eau très froide ou des glaçons, après quelques minutes, on verra des gouttelettes d'eau apparaître à l'extérieur du gobelet. Ce n'est pas l'eau qui sort du gobelet, mais plutôt c'est la vapeur d'eau de l'air qui s'est transformée en eau en touchant les gobelets froids. Voilà, ce n'est pas l'eau qui sort du gobelet, mais plutôt c'est la vapeur d'eau de l'air qui s'est transformée en eau en touchant les gobelets froids. Voilà donc, c'est encore la condensation.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Voilà, chers amis, poursuivons notre leçon sur les changements d'état de la matière. Le cinquième changement d'état de la matière s'appelle la sublimation. La sublimation est le passage direct d'un corps de l'état solide à l'état gazeux. Par exemple, la glace sèche qui se transforme en gaz. Lorsque lorsqu'on laisse de la glace sèche à l'air libre, elles ne font pas comme la glace ordinaire. Elles passent directement de l'état solide à l'état gazeux, sans devenir liquide. On observe cela dans les effets spéciaux au théâtre ou au cinéma. C'est la sublimation. Le deuxième exemple de la sublimation est le suivant. Parlons de la naphtaline. La naphtaline est une boule solide utilisée pour protéger les vêtements contre les insectes. Avec le temps, elle diminue de volume sans couler. Elle passe de l'état solide à un gaz parfumé. Elle disparaît peu à peu. C'est aussi de la sublimation. Chers apprenants, le sixième changement d'état de la matière est appelé la résublimation. La résublimation est le passage d'un corps de l'état gazeux à l'état solide. C'est l'inverse de la sublimation. Par exemple, en hiver ou tôt les matins, on voit souvent du givre sur les vitres ou sur les feuilles. Il se forme quand la vapeur d'eau dans l'air se transforme directement en glace sans passer par l'eau liquide. C'est ce que nous appelons, chers apprenants, la résublimation. Voici les deuxièmes exemples de la résublimation, chers apprenants. Prenons l'exemple des cristaux de glace dans un congélateur. Quand on ouvre souvent les congélateurs, de la vapeur d'eau, de l'air y entre. Cette vapeur se transforme directement en cristaux de glace sur les parois sans devenir liquides. C'est aussi un cas de résublimation. Parlons à présent des cycles de l'eau. Les cycles de l'eau et les parcours que l'eau effectue dans la nature de manière continue. Il comprend plusieurs étapes qui sont 1. L'évaporation. Sous l'effet du soleil, l'eau des rivières, des lacs et des océans s'évapore. 2. La condensation. La vapeur monte au ciel et se refroidit. 3. Elle se transforme en gouttelettes pour former les nuages. 3. Quand les nuages sont chargés d'eau, il pleut, il neige ou il grêle. 4. L'infiltration et les ruissellements. Une partie de l'eau pénètre dans les sols et l'eau coule à la surface de la terre pour rejoindre les rivières, les lacs ou les nappes souterraines. Et les cycles recommencent.
Je me sens comme à l'école quand j'apprends avec Radio Okapi.
À présent, parlons des sources d'eau. Chers élèves, on distingue plusieurs sources d'eau dans la nature. 1. Les eaux des surfaces. Parmi les eaux des surfaces, on peut les trouver dans les rivières, les lacs, les fleuves, les mers et les océans. 2. Les eaux souterraines. On les trouve au niveau des sources, des puits et des nappes souterraine. Et 3, l'eau des pluies. C'est une eau provenant de la condensation des nuages. L'eau est utilisée dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Par exemple, à la maison, pour boire, cuisiner, se laver, nettoyer et j'en passe. L'eau est aussi utilisée dans l'agriculture. Par exemple, l'irrigation des cultures et l'abreuvement des animaux. Mais aussi, l'eau est utilisée dans l'industrie. Par exemple, pour le refroidissement des machines et dans la fabrication des produits. Également, dans les transports. Chers amis, prenons l'exemple des navires. Dans la navigation fluviale et dans la navigation maritime, l'eau est aussi utilisée. Mais aussi, elle est utilisée dans la production d'énergie. Par exemple, au niveau des centrales hydroélectriques. Chers apprenants, parlons à présent de la pollution de l'eau. Retenez que l'eau peut être polluée par différentes causes. Nous pouvons citer quelques-unes. 1. Les déchets domestiques. Nous avons des eaux usées jetées dans les rivières sans traitement. 2. La deuxième cause, nous pouvons citer les produits chimiques agricoles. Par exemple, les engrais, pesticides qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques. 3. Les déchets industriels. Ici, nous faisons allusion aux rejets toxiques dans les cours d'eau. La quatrième cause de la pollution de l'eau est la présence des hydrocarbures. Ici, chers apprenants, je prends l'exemple du pétrole déversé dans les mers ou les marées noires et les différentes conséquences de la pollution de l'eau sont 1. Les maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, 2. La mort des poissons, 3. Les sols appauvris, 4. Le manque d'eau potable et plusieurs autres conséquences. Chers élèves, pour préserver l'eau, qui est une ressource précieuse, il faut suivre ces conseils. 1. Ne pas gaspiller l'eau, c'est-à-dire qu'il faut fermer les robinets après usage et demander aux agents de la régie des eaux de bien vouloir réparer les fuites. 2. Utiliser l'eau avec modération. 3. Ne pas jeter des déchets dans l'eau. Cela signifie qu'il faut utiliser des poubelles ou des trous à ordures. Il faut également traiter les eaux usées avant les rejets. 4. Pour protéger l'eau, nous devons aussi planter des arbres autour de la rivière. Cette pratique nous permet de retenir l'eau et d'éviter les érosions. Et 5, nous devons sensibiliser toute la population par des campagnes d'éducation à l'environnement. C'est pour protéger cette ressource précieuse qui est l'eau. L'eau est indispensable à la vie. Nous devons apprendre à bien l'utiliser, à la protéger et à éviter sa pollution. Chacun de nous a un rôle à jouer pour préserver l'eau pour aujourd'hui et pour les générations futures. Voilà, chers apprenants, c'est la fin de la première partie de notre leçon. On se retrouve juste après cette musique pour la suite.
Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, ohé.
Radio Okapi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Bana Okapi Éducation avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Bana Okapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi, entre 16h et 17h, pour Bana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Radio Okapi, encore plus près de vous.
Bienvenue à la deuxième partie de notre leçon, chers amis. Parlons à présent de la rivière. La rivière est un élément très important de la nature. Elle fait partie des eaux, des surfaces, et joue un grand rôle dans la vie des humains, des animaux et des plantes. Dans cette deuxième partie de notre leçon, nous allons comprendre la manière dont elle se forme, ses parties, les animaux et les plantes qui y vivent, son utilité pour l'homme, les dangers liés à la rivière et comment la protéger. Alors, chers apprenants, alors, par définition, une rivière est un cours d'eau naturel qui coule en permanence dans un lit du point le plus élevé vers les points les plus bas. Elle est plus petite qu'un fleuve, mais peut se jeter dans un fleuve, un lac ou un océan. La rivière se forme naturellement grâce à 1. L'eau des pluies qui ruisselle sur les collines et les montagnes. 2. Les sources d'eau souterraines qui jaillissent du sol. 3. La fonte des neiges ou des glaciers dans les régions froides. Ces eaux se rassemblent pour former un petit ruisseau qui grandit et devient une rivière. Une rivière est composée de plusieurs parties qui sont 1. La source, c'est l'endroit où commence la rivière. Elle peut venir d'une nappe souterraine ou de la fonte des neiges. Deuxième partie, les lits. C'est les chemins creusés dans le sol où l'eau coule. La troisième partie de la rivière s'appelle les rives. Ce sont les bords de la rivière, c'est-à-dire la rive droite et la rive gauche. La quatrième partie de la rivière est appelée les cours. C'est les trajets que suit la rivière. On distingue A. Les cours supérieurs près de la source. B. Les cours moyens, c'est au milieu de la rivière. Et C. Les cours inférieurs près de l'embouchure. La cinquième partie d'une rivière s'appelle l'embouchure. Chers apprenants, retenez que l'embouchure est l'endroit où la rivière se jette dans un autre cours d'eau, un lac ou un océan. À présent, chers amis, parlons des différentes caractéristiques d'une rivière. Elle coule toujours du haut vers les bas, c'est-à-dire de la montagne vers la vallée. 2. Son débit varie. Il peut augmenter pendant la saison des pluies. Le débit, chers amis, est la quantité d'eau que la rivière jette dans une autre rivière ou dans un autre cours d'eau qui peut être un lac, une mer ou un océan. Donc, nous pouvons dire que son débit varie. Il peut augmenter pendant la saison des pluies. Elle peut transporter des pierres, du sable ou de la boue. Mais aussi, la rivière peut créer des méandres. Les méandres sont des courbes ou virages dans son lit. Plusieurs animaux vivent dans ou autour de la rivière. Poissons, grenouilles, crabes, crocodiles, dans certaines régions, insectes aquatiques, certains oiseaux et j'en passe. La rivière est très utile pour l'homme, les animaux et les plantes. Pour les humains, elle est une source d'eau potable après traitement. Nous pouvons faire l'agriculture au bord de la rivière ou l'irrigation des champs. Nous pouvons également faire la pêche dans la rivière. Mais aussi, la rivière nous aide à faire les transports, y compris la production d'électricité et les lieux de détente ou du tourisme. Pour les animaux, chers apprenants, la rivière leur donne l'eau pour boire, l'habitation pour les animaux aquatiques. Et pour les plantes, l'humidité du sol et l'arrosage naturel.
Jérémie à l'école avec Radio Okapi.
Parlons à présent des dangers de la pollution de la rivière. Malgré ses avantages, la rivière peut aussi présenter des dangers. Par exemple, les inondations. En période de fortes pluies, la rivière déborde et envahit les maisons, les champs, et ainsi de suite. Deuxième danger de la rivière est les noyades. Les enfants ou même les adultes peuvent se noyer s'ils ne savent pas bien nager. Troisième danger de la rivière est les glissements des terrains. Lorsque l'eau érode les rives, le terrain peut glisser. Le quatrième danger s'appelle les animaux dangereux. Par exemple, la présence des crocodiles, serpents ou moustiques. Mais aussi les maladies. Si l'eau de la rivière est polluée, elle peut transmettre des maladies comme choléra, bilharziose, et j'en passe. Chers amis, pour protéger la rivière, 1. Il ne faut pas jeter les ordures dans l'eau. 2. Il ne faut pas construire des toilettes proches de la rivière. 3. Planter des arbres sur les rives pour éviter l'érosion. 4. Traiter les eaux usées avant de les rejeter dans la rivière. 5. Éduquer les populations sur l'importance de la rivière. Et 6. Interdire l'utilisation des produits chimiques nocifs près des cours d'eau. Chers apprenants, retenez que la rivière est un trésor naturel qu'il faut connaître, respecter et protéger. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon du jour. Je vous remercie infiniment pour votre attention particulière.
J'adore apprendre grâce à Radio Okapi.
Prenez vos cahiers d'exercices Nous passons maintenant aux exercices d'application. Écrivez, chers élèves. Numéro 1. Les passages d'un corps, de l'état liquide à l'état solide, s'appellent les passages d'un corps, de l'état liquide à l'état solide, s'appelle A. La condensation. B. La solidification. C. L'évaporation. Et l'ébullition. Le passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide s'appelle A. La condensation. B. La solidification. C. L'évaporation. D. La sublimation. E. L'ébullition. Choisis la bonne réponse. Écrivez numéro 2. Les changements d'un corps, de l'état gazeux à l'état liquide est appelé A. La solidification. B. La vaporisation. C. La sublimation. D. La condensation. E. Aucune bonne réponse. Les changements d'un corps de l'état gazeux à l'état liquide est appelé A. La solidification. B. La vaporisation. C. La sublimation. D. La condensation. E. Aucune bonne réponse. Choisis la bonne assertion. Numéro 3. L'une des causes des pollutions de la rivière est... L'une des causes des pollutions de la rivière est... A. Planter des arbres autour de la rivière. B. Jeter les ordures dans la rivière. C. Boire de l'eau de la rivière. D. Éduquer les populations sur l'importance de la rivière. Et traiter les eaux usées avant de les rejeter dans la rivière. Choisis la bonne réponse. Numéro 4. On peut utiliser l'eau de la rivière pour... On peut utiliser l'eau de la rivière pour... A. Arroser les champs. B. Brûler les forêts. C. Allumer les feux. D. Soigner les malades. Et couper les arbres. On peut utiliser l'eau de la rivière pour A. Arroser les champs. B. Brûler les forêts. C. Allumer les feux. D. Soigner les malades. Et couper les arbres. Choisis la bonne assertion. Voilà, chers apprenants, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne chance à toutes et à tous.